Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le blog du Bac français pour cette nouvelle année et on va démarrer avec l'objet d'étude, la poésie. Et on va démarrer par quelque chose qui n'est pas simple. C'est une œuvre assez difficile d'accès, assez difficile d'abord, hermétique, semble-t-il. Il s'agit des Illuminations d'Arthur Rimbaud. Donc je vous propose, au sujet de ces illuminations, 4 ou 5 lectures analytiques qui vont s'enchaîner les unes à la suite des autres. Et aujourd'hui, je vous donne rendez-vous tout de suite pour la première d'entre elles. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons étudier dans ces illuminations d'Arthur Rimbaud le poème qui s'intitule « Vagabond ». Alors c'est un poème un petit peu particulier dans le recueil puisqu'il s'enracine assez clairement dans l'expérience biographique d'Arthur Rimbaud, en particulier dans l'épisode de sa vie commune avec Verlaine, vie scandaleuse, et en particulier au moment où ils étaient tous les deux exilés à Londres. Alors vagabond au pluriel, c'est un titre ambigu puisqu'il peut avoir à la fois une connotation négative, figurer l'errance, quelqu'un qui n'a pas de direction et qui ne sait pas où il va, qui n'a plus de boussole. Mais il peut, sous la plume de Rimbaud, véhiculer également une ambiguïté, une connotation plus positive, quand on se souvient de Ma Bohème, par exemple, et de la disponibilité, l'ouverture à l'instant présent que ce vagabondage permet. Et par là aussi, on débouche un petit peu sur le projet poétique de Rimbaud tel qu'il l'a formulé dans des textes antérieurs, notamment les Lettres du Voyant. Alors, on va donner une lecture de ce poème tout d'abord. Allons-y. Vagabond, pitoyable frère, que d'atroces veillées je lui dus. Je ne me saisissais pas fervement de cette entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarre, et il ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur et finissais par gagner la fenêtre. Je créais, par-delà la campagne, traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse. Et, presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés, tel qu'il se rêvait, et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi, pressé de trouver le lieu et la formule. Alors, on va étudier ce poème selon trois axes de lecture. Nous montrerons, pour commencer, que c'est un poème à connotation autobiographique et qu'il offre dans un second temps une image assez négative, une image de la déchéance, on peut dire. Et enfin, nous mettrons pour terminer en avant le fait qu'il y a l'écho dans ce poème du projet poétique de Rimbaud tel qu'il l'a formulé auparavant. Alors, c'est tout d'abord un poème à connotation autobiographique. Oui, il y a l'ambiguïté du mépris qu'il voue à ce frère, pitoyable frère, et le substantif frère qui fait quand même référence à une communion. Donc, la connaissance de la biographie de Rimbaud, qui est, pour le cas précis de cet auteur, intimement liée à son œuvre, eh bien, nous oriente sur une hypothèse assez vite dans la lecture. Si le « je » est pris en charge par Rimbaud lui-même, il est fort à parier. On peut faire l'hypothèse que le pitoyable frère dont il est question serait Verlaine, le pitoyable frère avec lequel il passe ses atroces veillées, nous dit-il, à la première ligne. Le passé simple qui est utilisé, que d'atroces veillées je lui dus, eh bien, rejette dans le passé cet épisode, ce qui signalerait donc que l'écriture de ce poème est postérieur à l'épisode de cette vie commune, et postérieur donc à 1873. Au début du poème, dans le premier paragraphe, on a l'intervention des guillemets qui signalent un changement d'énonciation. C'est en effet Verlaine qui prend la parole dans ces guillemets, la voix lui est donnée, et il énonce ses reproches sous forme de discours indirect libre à Rimbaud. Alors, il lui reproche de ne pas se saisir fervemment de cette entreprise. Cette entreprise reste un petit peu une désignation un petit peu mystérieuse. On peut penser peut-être au projet de vie commune qu'ils avaient formé tous les deux. Il y a l'idée de retourner en esclavage, ce qui signifierait donc, dans l'optique autobiographique de ce poème, ce qui signifierait retourner en France, dans les chaînes du mariage, pour reprendre la même métaphore pour Verlaine, et chez sa mère pour Arthur Rimbaud. Mais il y a aussi le fait que les reproches de Verlaine se poursuivent au-delà des guillemets. À la ligne 4, il y a ce pronom de la troisième personne, « Il me supposait un guignon et une innocence très bizarre », ce sont les reproches de Verlaine qui continuent à s'exprimer, mais ici, à la troisième personne, le guignon étant la malchance. La réponse de Rimbaud, et on voit que leur relation est mouvementée, tourmentée, eh bien, Rimbaud y répond par le mépris. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur pour ce consacré à autre chose, à une autre activité, hein, et non plus cette discussion, non plus la réponse à ses reproches, une autre activité qui sera qualifiée au paragraphe suivant, à la ligne 11, d'une distraction vaguement hygiénique. On a une ambiance un peu lourde hein, ici, quelque chose comme une crise de vie commune, une scène de ménage, et c'est pourquoi Rimbaud reprend la désignation pathétique un peu plus loin, à la ligne 13, « le pauvre frère ». Et il y a une idée d'enfermement, une idée de répétition, puisque ces cérémonies se répètent presque chaque nuit, nous dit-on. Il y a donc une idée d'enfermement, d'emprisonnement dans une répétition indéfinie. Alors on peut regarder aussi le dernier paragraphe. « J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, cet « en effet » eh bien semble reprendre cette entreprise dont on a parlé tout d'abord, mais qui se situe beaucoup plus haut dans le texte, à la ligne 2. On a une discontinuité hein, donc de la parole ici, et cette entreprise s'éclaire, et le sens de cette entreprise s'approfondit. Hein, c'est une entreprise non seulement personnelle, qui concerne Rimbaud et Verlaine, mais c'est aussi peut-être une entreprise poétique. En tout cas, l'itinéraire se fait sans but, hein, on nous dit à la ligne 19, nous errions, nourris du vin des cavernes. Donc, il n'y a pas vraiment de direction. Et effectivement, l'image qui est donnée ici par Rimbaud de Verlaine et de leur vie commune eh bien, est une image assez négative, une image de déchéance, donc, chose que nous voyons dans un deuxième temps. Alors, on peut reprendre l'expression inaugurale du poème « Pitoyable frère », augmentée d'une ponctuation expressive hein, qui met l'emphase effectivement sur les sentiments négatifs de Rimbaud. Les désignations péjoratives abondent dans ce poème, y compris dans la bouche de Verlaine lui-même qui parle de son infirmité à la ligne 3. Un peu plus loin, lorsque c'est Rimbaud qui parle de son camarade, de son compagnon, il dit de lui, à la ligne 13 et 14, qu'il a la bouche pourrie. Alors c'est un petit peu, c'est en forme d'hyperbole, effectivement, mais on peut y voir aussi une métaphore. Hein. Il s'agit peut-être d'une mauvaise haleine. Peut-être cette mauvaise haleine est-elle due aux quantités d'alcool impressionnantes qu'il ingurgite alors à l'époque, on le sait par des témoignages et par diverses sources. Il s'agit aussi peut-être dans la bouche de Rimbaud, ou sous la plume de Rimbaud plus exactement, cette bouche pourrie, eh bien, d'une poésie qu'il rejette, d'une poésie qu'il dévalorise et qu'il juge de façon très négative. Les yeux arrachés également hein, font référence à un aveuglement de Verlaine et quand on sait que Rimbaud avait ce projet de voyance poétique, eh bien, on peut voir là une connotation poétique. Toujours est-il que l'image hein, est très négative et cette image, elle est telle qu'il se rêvait, hein, nous dit-il de Verlaine. Alors, c'est par antiphrase, bien évidemment, ça ressemble bien davantage à un cauchemar qu'il vivrait éveillé. Et le chagrin idiot, eh bien, serait une allusion au divorce de Verlaine en cours avec sa femme. La violence hein, de Verlaine apparaît, il me tirait en hurlant, et ça nous donne une image de ce personnage eh bien, violent et loin de la victime qu'il voudrait être en parlant à la ligne 3, lorsque les guillemets encadrent ses paroles, de son infirmité. On a donc une image de Verlaine qui est savamment distillée par Rimbaud et qui est une image en quelque sorte de fausse victime. L'univers dans lequel ils évoluent tous les deux est un univers infernal. Hein. L'adjectif satanique est employé à la ligne 7. Et le guignon, on peut revenir sur ce guignon qui signifie malchance, dont on a déjà parlé, mais qui a un sens également poétique depuis le poème de Baudelaire qui s'intitule « Le guignon » et qui fait référence à toute cette imagerie, tout cet univers du poète maudit. Les raisons inquiétantes qu'ajoute Verlaine à la ligne 6, eh bien, elles sont inquiétantes surtout parce qu'on ne sait pas quelles sont leurs teneurs, on ne sait pas à quoi elle fait référence. Le côté inquiétant, eh bien, précisément, vient du fait que l'on n'a aucune précision à leur sujet et que donc on peut s'imaginer les choses les pires. Alors, malgré cette image de la déchéance où... accompagnant cette image de la déchéance, on a aussi le projet poétique, le projet de voyance poétique, tel qu'il a été défini par Rimbaud dans les Lettres du Voyant que je mentionnais précédemment. L'entreprise, hein, à la ligne 2, je ne me saisissais pas fervemment de cette entreprise. Eh bien, c'est certainement cette entreprise poétique également, ce fait de vouloir se faire voyant, se rendre voyant. Dans la deuxième strophe, ou le deuxième paragraphe plus exactement, eh bien, Rimbaud caricature un petit peu la position de la contemplation romantique, hein, lorsqu'il se rend à la fenêtre et qu'il crée. Alors ce verbe créer fait écho bien sûr à l'étymologie du mot poésie, hein, qui signifie faire en grec, poiein signifiant faire. Donc il crée hein, par cette contemplation et par le travail simple de son imagination, bien quelque chose hein, qui enrichit le réel. Et ce quelque chose est assez mystérieux. Les bandes de musique, hein, on peut peut-être penser à des orchestres qui seraient proches du mot anglais band, l'orchestre de musique, ou bien tout simplement des bandes visuelles. Et si on se souvient du sonnet des voyelles, avec ce chromatisme des voyelles, eh bien ça peut être les deux interprétations en même temps que l'on peut retenir pour cette expression un petit peu étrange. Les fantômes hein, que crée Rimbaud, eh bien, qui normalement viennent du passé, ici semblent surgir du futur, comme pour figurer à l'avance le luxe nocturne. Ce mot hein, assez commun en fait, de luxe, ici poétisé hein, par le contexte dans lequel il est employé, peut faire référence soit aux voluptés que la nuit va apporter, soit tout simplement à une espérance de renouveau poétique, de renouveau de l'imagination, de renouveau vital au fond de cette déchéance dans laquelle ils semblent tous les deux tomber. L'entreprise hein, qu'on ne cesse pas de commenter, sur laquelle on ne cesse pas de revenir, eh bien... c'est un projet, on apprend ça au quatrième paragraphe, un projet de retour à une innocence, l'innocence d'avant. Hein, j'avais pris en l'engagement, en effet, de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Alors on a là l'image caricaturale également par rapport à laquelle Rimbaud semble manifester une certaine ironie, l'image du poète parnassien hein, qui se qualifiait ce groupe des Parnassiens eh bien, se voulait les fils du soleil. Le projet poétique néanmoins hein, continue et le poème possède en fait une chute sur la dernière ligne puisque il fait référence à une communauté, hein, il fait référence à leur vie commune, à lui et à Verlaine. Mais il se dissocie, Rimbaud, en tant que scripteur, se dissocie de son compagnon à la dernière ligne, pour signaler que ce projet poétique, eh bien, n'appartient qu'à lui et non pas à Verlaine. Moi, pressé de trouver le lieu et la formule. Alors cette dernière phrase est restée célèbre, hein, est restée célèbre parce que elle est assez mystérieuse finalement. Ce sont des désignations très générales, très symboliques. Le lieu, de quel lieu s'agit-il ? Hein, s'agit-il d'un lieu poétique ? S'agit-il d'un lieu mental ? D'une terre promise poétique ? On peut ranger sous ce lieu un petit peu tout ce que l'on veut et tout ce que l'imagination nous autorise à y ranger. Et de la même façon, la formule, eh bien, ce serait le poème parfait, ou ce serait l'exacte coïncidence du langage avec la vision ou avec la vie, hein, telle que Rimbaud le voulait dans son impatience, dans son désir d'immédiateté. On a ici deux mots, une formulation, eh bien, qui peut contenir en fait des milliers de choses différentes. Notons pour finir que la fin est en alexandrin. Hein, le moi pressé de trouver le lieu et la formule, ça nous fait 12 syllabes. Donc dans ce poème en prose, on a encore les traces de la versification. Dans cette errance, on peut terminer et conclure par là, eh bien, ils ont besoin simplement d'une nourriture qui est frugale, puisque, et là c'est un petit trait d'humour de la part de Rimbaud, le vin des cavernes en dialecte ardennais signifie tout simplement l'eau des fontaines. Donc l'eau des fontaines et le biscuit, juste pour alimenter le corps et pour pouvoir poursuivre cette quête d'idéal, cette quête d'infini. Moi, pressé de trouver le lieu et la formule. Alors, on peut conclure, hein, en disant que ce poème, eh bien, il a une connotation autobiographique assez évidente, que ça dresse une image assez négative, hein, une image de déchéance de ces deux poètes et de leur vie commune, mais que, quand même, à travers et malgré cette déchéance, eh bien, persiste le projet poétique, le projet de voyance poétique tel qu'il avait été défini par Rimbaud auparavant. Alors, des poèmes à tonalité autobiographique dans les Illuminations, il y en a d'autres, peut-être pas de façon aussi évidente que celui-ci, mais beaucoup de poèmes, à un moment ou à un autre, eh bien, font résonner un petit peu la vie d'Arthur Rimbaud. On peut penser en particulier à Départ, à Matinée d'ivresse, à Vie au pluriel, ou bien encore à Aube. Et dans le cas d'Arthur Rimbaud, hein, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres auteurs, mais effectivement, la connaissance de la biographie et la connaissance de l'œuvre, eh bien, s'enrichissent mutuellement, puisque c'est vraiment un auteur dont la vie personnelle est intimement mêlée à son projet d'écriture. Voilà, voilà. Donc, j'ai été un peu long, mais je vous promets que les prochaines, je serai plus court. C'est la reprise. Il faut un petit peu se remettre à faire les choses, se remettre dans le train. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des likes, bien évidemment, et à partager. Ça me fera plaisir que vous fassiez connaître ça au plus grand nombre. Je vous retrouve bientôt pour une lecture analytique suivante. Ciao, ciao.